Radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Aragon Radio. Au sommaire de ce 21 mars, Valérie Bressou-Guérin, directrice de la médiathèque Valette de Saint-Maurice, médiathèque, je l'ai dit un peu vite, vient nous parler des 50 ans de présence de cette institution à Saint-Maurice et des événements qui marqueront ce jubilé tout au long de l'année. Puis Raphaël Farquet, membre du comité de l'association Agoned, nous dira tout sur les activités et les besoins de cette association, complémentaires aux prestations médico-sociales de notre commune. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024 et comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une heure sur la plus sympathique des radios, Agone Radio. Cette bibliothèque s'est appelée la bibliothèque, elle s'est appelée l'Odysse. Elle a longtemps eu ses quartiers au fond de ville dans le quartier de la Vigerie. Et puis, depuis déjà quelques années maintenant, elle est à Saint-Augustin. 50 ans de présence de la médiathèque, on va l'appeler comme ça, à Saint-Maurice. Ça fait un sacré bail, Valérie Bressou-Guérin.
Effectivement, ça fait un sacré bail parce que 50 ans, ben voilà, c'est un chiffre anecdotique. Mais c'est un chiffre important parce que 5 décennies, c'est beaucoup de personnes qui sont passées par cette institution. C'est aussi beaucoup de collaborateurs qui sont passés là. Et pour la petite anecdote, en fait, il y a une bibliothèque existante à Saint-Maurice, au-delà de celle de la bibliothèque de l'abbaye. Il y en avait une qui s'intitulait la bibliothèque paroissiale de Saint-Maurice, dont on a encore un livre avec tous les noms des bouquins qui ont été acquis à ce moment-là, ou en tout cas répertoriés. Et c'est la bibliothèque populaire de 1958. Donc en fait, il y a déjà une bibliothèque qui se trouvait aussi à la Vigerie, plus ou moins. Et lorsque la médiathèque Valais-Saint-Maurice est implantée à Saint-Maurice, elle a rejoint ces lieux-là aussi. Mais effectivement, elle ne s'appelait pas médiathèque Valais à l'époque.
Elle s'appelait la bibliothèque et puis l'Odysse. Et l'Odysse, c'était un organisme bien particulier tout de même qui était d'ordre cantonal.
Exactement. Le canton, fort de sa bibliothèque cantonale, et s'apercevant en fait sa bibliothèque cantonale et son office de recherche et de développement, enfin de documentation pédagogique, étaient consultés que par des Cédunois ou que des Valaisans du centre, ils se sont dit que ce serait une bonne idée quand même de décentraliser nos structures. Et donc ils ont commencé par Brigue en 1971. Et voyant que les brigands, ça marchait du tonnerre, ils se sont dit on va s'intéresser du côté du Valais romand. Il faut se souvenir qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, hein. Donc il fallait vouloir monter jusqu'à Sion. Et puis, à ce moment-là, le canton a prospecté auprès des villes du Valais romand. Et la seule ville qui a répondu positivement, c'était Saint-Maurice. Saint-Maurice a toujours été en avant-garde, en tout cas, est toujours très ouvert d'esprit. Et le canton donc, a accepté la demande de Saint-Maurice, la réponse de Saint-Maurice. Et on s'est implanté dans le bâtiment de la Vigerie en ayant 3 noms. Puisqu'on était l'Office régional de la bibliothèque cantonale, l'Office de documentation et d'information scolaire pour le Bas-Valais et la bibliothèque communale de Saint-Maurice.
Un triopac, 3 en 1.
Un triopac, ce qui fait que les gens n'ont jamais pu prononcer ces 3 mots, enfin ces 3 appellations, et que très vite, sans doute par l'impulsion de Maurice Parvet, qui était le premier directeur de cette institution, on a préféré le terme Odysse, ça fait quand même plus poétique et plus sympathique.
Et puis, tu le disais tout à l'heure, Odysse Saint-Maurice, quand on répond au téléphone, ça sonne quand même.
Ah, ça en jette.
Ça en jette, on en viendrait à le regretter. Et cet Odysse, justement, ça a fait le bonheur des enseignants pendant de longues années.
Oui, et ça se poursuit. Effectivement, quand ils ont implanté l'Odysse à Saint-Maurice, c'était quand même très particulier parce qu'il y avait non seulement des ouvrages, des livres qui provenaient de la bibliothèque cantonale, mais aussi acquis par la municipalité de Saint-Maurice. Il y avait tout un pendant de centres de documentation pédagogique avec des choses très innovantes pour l'époque, puisqu'on avait des diapositives, on commençait à avoir des cassettes, on avait des mallettes, on avait des lectures suivies, des choses qu'on ne voyait pas où il fallait monter jusqu'à Sion. Et c'était un petit peu plus compliqué, donc on était très très moderne, même si ces supports aujourd'hui ont disparu, mais c'était très moderne pour l'époque et les enseignants appréciaient de ne pas avoir besoin de monter jusqu'à Sion pour recourir à ces supports qui les aidait notamment dans l'enseignement primaire, mais aussi dans le secondaire ensuite. Mais c'était quelque chose de prisé par les enseignants.
Donc des enseignants de toute la région. Est-ce qu'on peut dire que de cette manière, finalement, la pédagogie à Saint-Maurice et un peu alentour dans le Chablais a pris peut-être une autre tournure?
Sans doute, oui, parce qu'en étant un centre de documentation pédagogique pour le bas, et là, on réunissait à la fois Martigny et jusqu'à Saint-Gingolph, finalement, ça a permis vraiment d'ancrer cette notion de pédagogie, de centre de doc pédagogique à Saint-Maurice. Mon prédécesseur, Maurice Parvet, a fait beaucoup d'expositions, notamment en lien avec les classes. C'est comme il était enseignant à la base, il avait déjà un grand réseau d'amis enseignants, ce qui a aussi rendu beaucoup plus fort l'attraction de Saint-Maurice par rapport au monde enseignant. Et comme il y avait tout à faire à l'époque, on était même cité comme la bibliothèque renouveau, innovante. Et quand j'ai repris les derniers rapports, enfin les rapports d'activité, les premiers rapports d'activité qui étaient rédigés par Maurice Parvet, qui était un grand amateur aussi de collection d'articles de presse, eh bien c'était assez amusant de voir qu'en 1974, eh bien Saint-Maurice était déjà innovant. Et on continue de l'être, en tout cas on l'espère, qu'on continue cette histoire et cette tradition d'être aux avant-postes.
Aux avant-postes, comment ça a continué cette histoire? Il y avait l'innovation du départ, le fait d'être un peu le seul lieu qui proposait ce service-là. Comment on suit cette histoire-là ensuite pour être toujours justement innovant?
Alors là, caractéristique de Saint-Maurice, c'était aussi de promouvoir les bibliothèques, donc développer des bibliothèques dans les communes. Donc on s'est dispersé aussi, on a propagé la bonne parole, on va dire, on a créé des bibliothèques communales et scolaires, qui étaient aussi censées être le relais par rapport à l'ODIS. Et puis, en même temps, on a suivi le développement de cette organisation pédagogique, puisqu'on avait des animateurs pédagogique qui venait sur place et qui donnait aussi des renseignements auprès des enseignants. Et lorsque la haute école pédagogique a été créée, le canton, les politiques ont décidé de faire en sorte que cette HEP soit également bilingue et soit aussi présente dans les deux côtés de la Raspille. Et ils ont tout de suite pensé que les deux emplacements les plus appropriés étaient Brigue et Saint-Maurice. Du coup, ça a conforté effectivement notre place dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la médiathèque Valais et sa partie pédagogique, eh bien, on a perdu quelques supports. Hein. On n'a plus de diapositives, les cassettes sonores ont disparu, les CD-ROM, ben voilà, on n'en voit plus tellement. Mais on est passé dans les ressources électroniques et là, on collabore aussi beaucoup avec la haute école pédagogique parce que là, les besoins sont notamment ceux de la haute école pédagogique puisque aujourd'hui, la médiathèque Valais-Saint-Maurice a une mission supplémentaire, enfin maintenant aujourd'hui ça fait plus de 19 ans maintenant, qu'on a cette mission d'être la bibliothèque spécialisée de la HEP, donc on continue dans cette voie-là, en collaboration avec le service de l'enseignement et la haute école pédagogique.
Donc la bibliothèque, la médiathèque de Saint-Maurice, c'est vraiment le lieu où trouver toutes les ressources en fait, qui ont trait à la pédagogie, à l'école, et qui doivent faire le bonheur de tous ces étudiants de la HEP.
Oui, alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi accessible en ligne. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin forcément de venir à Saint-Maurice pour obtenir des documents, puisqu'ils peuvent le commander, qu'ils soient à Sion, Martigny ou dans tout le Chablais, puisque dans tout le Chablais, ils peuvent nous commander et on transporte uniquement dans le Chablais, directement dans les bibliothèques communales du Chablais, les documents qui sont demandés. Donc oui, ils ont beaucoup de chance, en fait, d'avoir cette proximité-là, d'avoir cette ouverture-là. Et si on ne les voit pas forcément physiquement, parce qu'ils ont des horaires différents d'autres structures, hein, mais on sait qu'ils empruntent effectivement des documents en les faisant peut-être plus venir du côté du centre, puisqu'il y a quand même pas mal d'étudiants, c'est du noir, on va dire. C'est un peu l'inverse qui se passe aujourd'hui. Mais on a accès à tous ces documents-là, et effectivement, on a à cœur de leur présenter ça en début d'année, notamment pour qu'ils puissent les utiliser lors de leur stage et leur donner le goût et surtout l'envie de les utiliser pour leur travail futur.
Il y a un petit côté quand tu expliques que tous ces livres, on peut les commander, qui sont redistribués dans les différentes bibliothèques. Il y a un petit côté siècle des Lumières avec un peu plus tardif, où on essaye de diffuser le savoir comme ça. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté, quand on est directrice de bibliothèque, de faire en sorte que les livres y circulent le plus possible ?
On a la chance à Saint-Maurice d'avoir plus de 90 000 documents sur nos étagères notamment. Donc en fait, l'objectif, c'est que ces documents voyagent. Ils voyagent d'abord auprès du lecteur qui veut bien les emprunter, mais qui, s'ils peuvent être utiles beaucoup plus loin, on est très heureux. L'objectif de nos bibliothèques, c'est pas que les ouvrages se fassent beaux sur les étagères. Ce n'est pas l'objectif, c'est que vraiment ils soient utilisés. Et le fait qu'on partage un catalogue avec d'autres bibliothèques et que ces autres bibliothèques ont d'autres lecteurs et que par le biais de ce catalogue, ils peuvent se dire « Ah ben tiens, ça je ne trouve pas à Monté, je ne trouve pas ça à Champéry, je ne trouve pas ça à Saint-Gingolph, j'aimerais le faire venir, je fais un clic, je réserve, tout ça gratuitement. » Et c'est pour ça que je disais qu'on a la chance dans le Chablais, c'est qu'on a un bus qui passe tous les lundis et qui vient prendre ces documents et qui les diffuse dans toutes les bibliothèques lorsqu'il y a des réservations. Ce qui fait que le lecteur n'a plus besoin forcément de venir jusqu'à Saint-Maurice pour venir rendre son document et peut le déposer dans n'importe quelle bibliothèque. Donc ça, c'est aussi une innovation du Chablais, pour dire que les Chablaisiens sont très innovants. Ce n'est pas pour se jeter des roses comme ça, mais on doit dire que c'est une région extrêmement dynamique et ouverte aux nouvelles idées.
Innovants et chanceux, du coup, puisqu'ils ont les livres au pied de la porte, chaque fois.
Exactement, non, on est vraiment très gâtés.
Ça, c'est magique. On se retrouve dans un petit instant pour parler encore de toute cette magie des livres, juste après une petite musique. I love you, comme on aime les livres aussi à Saint-Maurice, avec 50 ans de présence de la médiathèque dans notre chère commune. Et Valérie Bressou-Guérin, qui est là avec nous pour parler de cet anniversaire, nous disait tout à l'heure, la médiathèque de Saint-Maurice, c'est 90 000 livres, ce qui est quand même pas mal. Mais par contre, et ça on ne le sait pas encore, il n'y aura pas une étagère de plus. Pourquoi ça?
On a la chance d'être sur 4 étages. C'est énorme, on est sur grosso modo 1300 m² de libre accès, c'est très grand. Et quand on a déménagé de la Vigerie dans le bâtiment Saint-Augustin, c'était l'époque encore où on mettait des grandes étagères. Aujourd'hui, dans les bibliothèques nouvelles qui se créent, on met des étagères avec un niveau de moins. Donc on a déjà la chance d'avoir un niveau de plus en 20 ans. Donc on a conservé ce niveau de plus, ce qui fait que ça fait très engorgé. Si on a trop de livres, à un moment donné, ce n'est pas intéressant pour le lecteur non plus, parce qu'il ne saura pas voir, on ne peut pas montrer ce qu'il y a. Et là, dans l'idée, ce serait quand même que les gens, lorsqu'ils viennent en bibliothèque et qui n'ont pas envie de passer par le catalogue pour trouver quelque chose et qui veulent s'inspirer comme ça, qu'ils puissent les voir le mieux possible. On appelle ça le facing, ça veut dire qu'en principe, on a la page de couverture qui est démontrée. Donc, il faut laisser des espaces pour que les gens puissent avoir envie d'emprunter des choses. Donc, 90 000 documents, c'est beaucoup. Ça peut être peu, ça dépend où, mais c'est quand même beaucoup. Donc, on n'agrandira pas plus les espaces de livres parce qu'il faut qu'ils puissent respirer et que les lecteurs puissent également respirer. Donc je pense qu'on a déjà beaucoup à faire, sans compter qu'il y a 2 millions, grosso modo, de livres dans le Valais mis à disposition. Donc comment on peut les faire venir de ces bibliothèques-là? La richesse pour l'ensemble des Agonois, elle est immense. Donc ils peuvent, sans autre, s'ils ont fait le tour des 90 000 documents chez nous, ils pourront aussi faire le tour après des 1 million et quelques qui se trouvent dans le Valais.
C'est bien, ça promet plusieurs vies et ça fait voyager. 90 000 livres quand même. Comment on les choisit en tant que bibliothécaire, ces livres?
Alors, comme on a plusieurs publics et qu'on a décidé de servir plusieurs missions, on a à la fois le monde de l'enseignement, on a à la fois les étudiants du collège de l'Abbaye, on a à la fois les scolaires et on a le tout public. On s'est défini une politique d'acquisition. Qu'est-ce qu'on doit acquérir? Et ça va donc de l'apprenti lecteur jusqu'à 101 ans, 102 ans, etc. pour les lectures, mais aussi avec des choses plus pointues pour les enseignants, la didactique dans différentes matières. Et puis chacun, on est aujourd'hui 11 personnes permanentes, il y a grosso modo 9 personnes qui font des choix d'ouvrages, et c'est des choix d'ouvrages qui se font en fonction de plusieurs critères. Il y a des coups de cœur, évidemment, lorsque les lecteurs proposent des ouvrages. Eh bien, on regarde si on l'a déjà, si on ne l'a pas, si c'est pertinent de l'avoir. Mais ça se construit en fonction de cette pensée toujours en disant, voilà, c'est pour à la fois les enfants, c'est à la fois pour les adultes. Ça doit être des ouvrages de lecture facile, on va dire, jusqu'à des lectures plus poussées, puisqu'on va jusqu'au tertiaire, un niveau tertiaire, avec des ouvrages plus pointus. Donc, on a de tout. On a la chance d'avoir une bibliothèque extrêmement complète.
Et des propositions de lecteurs. Justement, ces lecteurs à Saint-Maurice, c'est qui? Est-ce qu'on arrive à en faire un portrait du point de vue du nombre, du point de vue de l'âge, du genre?
Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de personnes, de dames d'ailleurs, beaucoup plus de dames que de messieurs, et puis on a pas mal d'étudiants. Donc ça dépend les heures de la journée, on a plus d'étudiants, on a plus de personnes qui viennent profiter de la bibliothèque lorsque c'est plus calme, quand il n'y a pas d'étudiants, quand c'est plus calme, quand il n'y a pas d'enfants non plus. Donc c'est plutôt des familles, enfants, et puis personnes retraitées, on va dire, qui viennent, avec toute cette période d'enseignants et d'étudiants qui viennent à des moments précis pour des besoins bien précis.
Mais en tout, est-ce qu'on arrive à quantifier ce nombre de personnes ?
Alors, on dit qu'on a grosso modo 3000 lecteurs qu'on dit actifs. Ça veut dire des gens qui viennent régulièrement, au moins une fois par année, emprunter un document. Mais ce n'est pas forcément super représentatif parce qu'il y a tout plein de gens qui viennent à la médiathèque sans forcément emprunter des documents, mais simplement consulter des journaux, puisqu'on a les magazines, on a les quotidiens. Et là, on n'est pas encore venu aux chiffres d'avant Covid, parce qu'avant Covid, on était autour de 85 000 visiteurs par année. Aujourd'hui, on en est à peu près à 60 000. Donc, le Covid a passé par là. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de faire autrement. Finalement, ont pris peut-être goût aussi à emprunter uniquement des e-books. Ça, c'est aussi possible. Mais gentiment, ces personnes reviennent parce qu'elles ont dépassé aussi la peur de se rencontrer dans un même endroit ou de toucher des choses. On en a toujours le désinfectant pour ceux qui auraient des soucis. Mais voilà, ça fait beaucoup de personnes. C'est pas mal d'Agonois quand même, une grande partie d'Agonois, mais aussi des gens de l'extérieur puisque la ville de Saint-Maurice, c'est aussi des gens qui viennent travailler à Saint-Maurice, notamment un grand nombre d'enseignants, de professeurs au collège d'Abbaye ou à l'HEP, et qui profitent de venir chercher des ouvrages aussi dans cette bibliothèque.
Et justement, ces 50 ans de la médiathèque à Saint-Maurice, ça sera peut-être l'occasion aussi de permettre à des gens qui avaient perdu l'habitude de revenir entre les murs, on dira, visionner et regarder tous ces livres exposés, puisqu'il y a différentes animations qui vont être prévues durant toute l'année. Une première déjà ce week-end, ça s'appelle « À table ».
On a la chance effectivement de faire partie de cette animation suisse, puisqu'elle est proposée par l'Association fêtière des bibliothèques. Donc dans toute la Suisse, il y a cette animation qui s'appelle « Biblio Week-end » et la thématique de cette année, c'est « À table ». Donc pour Saint-Maurice, comme on est effectivement, ça fait 50 ans qu'on est au cœur de la cité et 50 ans qu'on a des partenaires, et là, on a voulu faire la part belle à nos différents partenariats en faisant des choses particulières. Et pour ce 23 mars, on va travailler avec la délégation à l'intégration et notamment les personnes qui viennent de certains pays pour nous faire déguster leur cuisine particulière. Donc les gens auront la possibilité de venir à la médiathèque pour découvrir 4 continents. Et pour ces 4 continents, il y a à chaque fois 2 pays. Donc, venez déguster à Saint-Maurice des choses venant de l'Afrique avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, de l'Asie avec la Philippine, le Sri Lanka, l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil et l'Europe, l'Allemagne et le Portugal. Donc, c'est intéressant de venir déguster ces produits, mais aussi découvrir en fait tout ce qui a trait à ces pays-là, puisqu'on ce genre d'animation nous permet aussi de mettre en valeur les ouvrages qui sont peut-être cachés derrière des étagères qu'on ne voit plus parce qu'ils sont bien rangés, les faire revivre, leur donner une deuxième vie. Donc on invite tous les Agonois, les Agonoises et aussi nos voisins de l'AVE de venir entre 11h et 15h ce samedi.
Voilà, et l'occasion de dire aussi que la langue française est très large et qu'elle se fait pas seulement à Paris mais aussi en Suisse et dans les pays d'Afrique et que tous ces auteurs, on en trouve aussi à la médiathèque de Saint-Maurice.
Et oui, c'est comme ça qu'on permet de voyager aussi, tout en restant bien assis chez nous et bien dans notre ville ici. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir voyager. Et lorsque il y a eu le Covid, c'était la grosse inquiétude, mais on a quand même fonctionné tout le temps et on a pu distribuer des ouvrages. Lorsque les autorités ont annoncé la pénurie d'énergie, on s'est dit « pas de souci, les livres, ça s'ouvre toujours, avec électricité ou non ». Donc en fait, à Saint-Maurice, on ne peut jamais s'embêter parce qu'en venant à la médiathèque de Saint-Maurice, eh bien, on a des ouvrages gratuits pour la lecture. Donc oui, pour ce week-end, en tout cas, c'est un dépaysement garanti.
Un dépaysement garanti qui sera suivi très vite après d'un café littéraire où on change un peu de mood, on dira, puisque la médiathèque accueillera le slameur Narcisse.
Et oui, c'est la semaine de la poésie également dans ce mois-ci, au mois de mars. Et on a la chance de l'accueillir à 18h45 le mardi 26 mars. Donc on aura aussi sans doute un petit bout d'extrait de son spectacle. Il va sans doute slammer. Donc on va non seulement le découvrir au travers de l'interview que fera Geneviève Erard, mais aussi l'entendre de vive voix pour slammer ce qui fait son ADN aujourd'hui.
Et là aussi, l'entrée est libre.
Tout à fait.
Pas de réservation.
Aucune.
Aucune. Et pour suivre la suite de tous ces événements qui ont marqué le 50e, on vous retrouve sur le site internet.
Exactement, sur www.mediatek.ch. Et là, vous allez sur offres culturelles. Et puis, vous sélectionnez Saint-Maurice et vous savez tout.
Alors, on se réjouit déjà de la suite. En attendant, merci beaucoup Valérie Bossou-Guérin d'être venue nous parler de ces 50 ans de présence de la médiathèque de Saint-Maurice à Saint-Maurice, avec toutes ses richesses. Et on se réjouit d'en découvrir un peu plus. À bientôt.
Merci.
Agoned, voilà notre deuxième sujet de la soirée. Agoned, c'est une association qui existe depuis 35 ans à Saint-Maurice et qui a peut-être besoin d'un peu d'aide, on y reviendra dans un petit moment. Pour parler de cette association, Raphaël Farquet, salut Raphaël.
Bonjour Emmanuel, bonjour Pierre-Yves.
Qui fait partie du comité de cette association. Une association qu'on connaît, que certaines personnes, surtout celles et ceux qui en ont le plus besoin connaissent, mais qui auraient besoin d'un petit coup de pouce. Alors déjà, avant de venir sur ces besoins d'Agoned, est-ce qu'on peut en dire plus sur cette association ?
Alors, cette association d'Agoned a été fondée par M. Edmond Reduit à l'époque, qui avait le sens de l'entraide et de l'humain, et qui a ressenti l'opportunité de venir en aide et en soutien à la population agonoise et des environs par la mise sur pied d'actions ponctuelles qui ont été mises en place progressivement autour de deux axes. Le premier axe, c'est le transport de personnes fragiles et isolées qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui ne peuvent plus se déplacer pour se rendre dans des consultations médicales, des hôpitaux, ou faire des traitements ou de la rééducation, par exemple. Et dans un deuxième axe qu'il avait développé à l'époque, c'était l'accompagnement des gens en fin de vie à domicile. Ce deuxième volet d'activité était un peu laissé de côté par manque de moyens. Et aujourd'hui, l'association Agoned se concentre principalement sur les déplacements à vue dans le but de maintenir l'état de santé des personnes fragiles et qui ont besoin de cette aide et pour garantir le maintien à domicile.
Et tout ça, bien sûr, ça exige des personnes qui sont disponibles pour aller transporter, justement pour faire les chauffeurs et transporter ces personnes jusque dans les lieux de soins. Aujourd'hui, à Agoned, c'est combien de personnes qui s'occupent de ces transports ?
Alors Agoned repose évidemment, vous le relevez, sur un réseau de bénévoles. Donc le bénévole, par définition, offre son temps, mais il est défrayé parce qu'il utilise son propre véhicule pour les kilomètres qu'il accomplit. Alors aujourd'hui, le réseau des bénévoles d'Agoned se renouvelle, mais un peu de peine à trouver finalement le volume de chauffeurs suffisants à l'explosion des demandes. Actuellement, nous avons 8 chauffeurs. Il nous en manquerait pour arriver à assumer toutes les demandes qui viennent et celles-ci sont en pleine la tendance est exponentielle. Je peux relever d'ailleurs certains chiffres tout à l'heure par rapport aux deux dernières années. Il nous manquerait effectivement 3 à 4 chauffeurs supplémentaires pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui sont exprimées.
Des demandes exponentielles, peut-être la faute aussi au Covid qui a passé par là ?
Alors pendant les années Covid, bien sûr tout s'est arrêté, y compris le fonctionnement d'Agoned, mais après le Covid, alors c'est reparti de plus belle. Moi-même, j'ai repris la trésorerie et le secrétariat d'Agoned parce que celui-ci, au départ, s'appuyait sur une collaboration qui a été mise en place entre Agoned et le CMS, parce que Agoned avait besoin d'un relais pour filtrer les demandes et les appels et l'attribution des courses. Et ça, c'est toujours le secrétariat du CMS qui le fait. Par contre, il y avait aussi la trésorerie et la comptabilité qui étaient attribuées selon une collaboration au CMS. Mais depuis le regroupement des CMS, des services médico-sociaux du Bas-Valais entre Saint-Maurice, Monthey, Vouvry, sur une seule entité, le service comptable est parti se délocaliser à Monthey, ce qui fait que c'est à ce moment-là que j'ai repris moi-même la fonction de secrétaire trésorier. Mais j'ai un peu perdu le fil de la question.
La question, c'était de savoir pourquoi les demandes avaient augmenté comme ça après
le voilà,
Covid.
Effectivement. Merci de me remettre sur les bons rails, Emmanuel. La demande a explosé simplement parce que je pense que c'est un constat social. Il y a de plus en plus de gens qui sont fragiles. Le vieillissement de la population augmente. Et puis, le réseau des proches aidants, c'est-à-dire la famille et les voisins, peut-être s'épuise aussi. Donc, nous avons eu, pour donner des chiffres qui sont assez évocateurs, en 2022, nous avons accompli, l'ensemble des chauffeurs ont accompli 16 000 kilomètres sur toute l'année. En 2023, ce chiffre est monté à 23 000 kilomètres. C'est-à-dire une augmentation de 30% de demandes et de déplacements à vue médicale. C'est important et ça veut dire que ça correspond vraiment à une attente et à un besoin. Et ce n'est pas des déplacements pour aller faire des sorties d'animation pour aller faire des courses. C'est vraiment pour maintenir l'état de santé ou garantir une évolution d'un état de santé compatible avec le maintien à domicile.
Donc concrètement, c'est aller chez le médecin, chez le physio, chez tous les...
Dans un hôpital, faire un traitement lourd lié à un problème oncologique ou des spécialistes. Effectivement, c'est ça. C'est exactement ça.
Et combien de personnes bénéficient en ce moment de... On a les kilomètres, mais on sait combien ça touche de personnes.
Alors oui, j'ai les statistiques de ça, mais je ne veux peut-être pas trop en parler, mais c'est en tout cas le filtre opéré par le secrétariat du CMS fonctionne bien. Ce sont vraiment des gens qui ont besoin d'un déplacement, qui n'ont pas qui peuvent pas se retourner ou s'appuyer sur des proches aidants et qui ont vraiment besoin d'entreprendre un traitement ou un suivi de traitement. Donc, il n'y en a pas... énormément, mais ceux qui en ont besoin en ont toujours plus besoin.
D'accord. Et ces gens-là, concrètement, ils payent une petite participation aussi pour les trajets?
Oui, tout à fait. Donc, le fonctionnement financier d'Agoned est le suivant. Le bénéficiaire, c'est-à-dire que la personne qui a besoin d'être déplacée, paye 50 centimes le kilomètre directement au chauffeur. Et nous défrayons, l'Agoned défraye le chauffeur pour un montant complémentaire équivalent à le montant qu'on peut, qui est reconnu par le service des contributions pour les déplacements professionnels. Ça, c'est la contribution d'Agoned. Mais ce tarif, il est sans comparaison aucune avec les transports dits privés comme les taxis. Et il y a aussi une autre association qui fonctionne, c'est Transport Handicap, qui peut prendre en charge des patients dont le but est le déplacement à vue médicale, mais c'est compliqué à mettre en place ces dossiers. Il faut une reconnaissance de la caisse maladie avec des attestations médicales et le Transport Handicap croule sous les demandes.
Donc des demandes en hausse et une raison d'être de cette association Agoned, dont on va continuer à parler dans un petit moment, juste après une musique. De retour sur Agon Radio pour parler de l'association Agoned avec Raphaël Farquet. Agoned, une association qui permet aux personnes qui ont besoin de soins de se rendre dans les hôpitaux et les différents médecins pour bénéficier de ces soins. Ça exige des bénévoles, ça exige des fonds aussi. Concrètement, Raphaël Farquet, comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? Donc, vous cherchez des bénévoles. Leur profil, c'est quoi?
Alors oui, effectivement, si je suis ici, c'est aussi pour lancer un appel à l'aide pour Agoned. Alors, nous cherchons des bénévoles les plus disponibles possibles, mais qui sont titulaires d'un permis de conduire et qui possèdent une voiture. Ça, c'est important parce que l'activité, comme je l'ai relevé tout à l'heure, est principalement de l'ordre de transport. Par contre, il faut dire que les transports qui nécessitent une aide physique importante, comme les gens qui seraient en chaise roulante, nous ne les assumons pas. Nous assumons quand même des gens qui peuvent se déplacer à pied, avec une canne ou deux cannes, et puis une aide d'un soutien d'une personne. Mais pas, on n'a pas de véhicule attribué à Agoned, ne possède pas de véhicule. Donc, lorsqu'il faut des moyens de transport plus importants, il faut se tourner vers Transport Handicap, par exemple. Donc, nous avons besoin de bénévoles. Ça, c'est le premier appel. Alors, toute personne qui serait intéressée à rejoindre les rangs d'Agoned peut prendre contact avec le numéro d'appel du CMS, qui est le 024 486 21 21, et dire à la personne qui va lui répondre qu'elle veut parler au sujet d'Agoned et s'inscrire. À partir du moment où quelqu'un serait intéressé, il va être rencontré par le président, qui est M. Michel Galliker, ou moi-même, et puis on va définir ses disponibilités et son rayon d'action. Parce qu'il est clair que si quelqu'un ne veut pas aller à Lausanne, par exemple, parce qu'il n'aime pas conduire en ville de Lausanne, ben on ne va pas le solliciter pour aller à Lausanne. Ça part du principe du bénévolat. Le bénévolat, c'est lui qui donne ses disponibilités et en termes de temps et en termes de rayon d'action. Le deuxième appel, c'est un appel à la générosité des Agonais et des Agonoises, parce que l'association Agoned vit de ses économies. Elle n'a pas de cotisation, elle a besoin un peu d'aide financière qui peuvent être sollicitées. Alors toute personne qui serait sensible à la cause d'Agoned peut nous aider en versant une petite obole, partant du constat que les petits souffles peuvent faire des grandes rivières, en appelant le CMS, en demandant le numéro IBAN de l'association, ou en consultant le flyer qui a été distribué tout récemment, c'est-à-dire la semaine passée, qui évoque ses besoins tant en termes de ressources humaines qu'en termes de ressources financières.
Ce qui est important, donc, c'est qu'il n'y a pas de petits dons de temps ou de petits sous qui seraient trop petits. On est bien d'accord que si on est bénévole, même si on a peu de temps à disposition, mais qu'on est prêt à donner ce temps-là, c'est possible de faire pour des petits trajets ou...
Absolument. Donc, je vais me permettre un petit clin d'œil un peu humoristique et poétique, si vous me permettez, Emmanuel. C'est ce que j'appelle la métaphore du colibri et de l'incendie. Je ne sais pas si tu connais cette métaphore. C'est un feu de forêt qui se déclare dans une forêt, et puis tous les animaux s'enfuient, y compris un colibri qui vivait dans cette forêt. Et puis le colibri, il a repéré qu'il y avait une rivière à proximité. Alors il commence à faire des allers-retours entre l'incendie de son lieu, de son habitat naturel, et puis la rivière. Puis il va essayer d'éteindre l'incendie. Puis au bout d'un moment, il s'essouffle. Et puis les autres animaux qui le regardent faire commencent à se ficher un peu de lui. Puis il dit, mais mon petit colibri, tu ne vas jamais réussir à éteindre l'incendie toi-même. Puis le colibri, il a cette phrase pleine de sagesse qui dit, ça ne fait rien parce qu'au moins moi, j'aurais fait ma part. Alors, ça répond à la question que tu m'as posée. Effectivement, si chacun apporte une petite contribution, ben on arrivera à faire durer cette association, à lui faire continuer sa mission d'aide et d'entraide et de soutien au prochain. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de catastrophes, des incendies planétaires, des tremblements de terre, des conflits armés. C'est les États qui répondent pour les aides humanitaires et l'envoi de personnel ou de ressources. Mais à notre échelle de petite cité d'Agone, il y a des besoins, et j'ai évoqué l'explosion des demandes, il y a des besoins. Les besoins, ils sont peut-être devant votre porte, dans votre rue, dans votre quartier. Et si chacun apporte sa petite contribution à l'image du colibri, ben, l'association Agoned pourra continuer à poursuivre sa belle mission.
Magnifique. Donc, on peut être un colibri, si je résume, sans être forcément un retraité à 100% qui a tout son temps. On peut donner quelques heures par-ci, par-là, pour permettre justement à ces gens de la commune d'aller se rendre sur des lieux qui sont très importants pour eux. Donc, on va peut-être rappeler les éléments très pratiques. Si on veut joindre l'association Agoned, on cherche des chauffeurs et on cherche des fonds. On prend contact avec le CMS de Saint-Maurice qui coordonne les appels pour l'association et on leur demande comment on peut agir et être mis en contact avec l'association. Un dernier petit mot ?
Alors, je remercie Agone Radio de nous donner l'opportunité de donner un peu de visibilité à cette association qui a toujours agit dans la discrétion jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que lorsqu'on aide des gens fragiles, on n'aime pas faire de la publicité, mais il est temps aujourd'hui de contribuer, de faire un petit appel du pied à la population. Et puis, partons aussi du principe que si on aide aujourd'hui à Gonède, peut-être à Gonède nous aidera demain.
C'est un joli mot pour terminer cette émission. Un grand merci de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de ce jeudredi. Merci à nos invités du soir, Valérie Bressoux-Guérin, pour les 50 ans de présence de la médiathèque Valais à Saint-Maurice, Raphaël Farquet pour l'association Agonède. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de jeudredi. D'ici là, Agone Radio reste présente sur Internet et sur le DAB+, ainsi que sur les box Net+, Swisscom Blue, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Bonne suite de jeudredi soir et à bientôt sur Agone Radio.